تطبطبطبطبيني تطبطمصيطيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصيطيني زماني الغايب عالحياة الفرحة. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano, aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Moi je lis et avec vous je partage toutes les semaines, nous avons rendez-vous et pendant une demi-heure je vous fais part de ma dernière trouvaille, roman, nouvelle, BD ou album jeunesse, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je chronique les ouvrages, j'interviewe les auteurs dès que j'en ai l'occasion et puis, et tout est là, je vous propose une playlist totalement subjective qui peut donc, selon moi, restituer les émotions ressenties pendant la lecture. Quel rythme pour vous restituer celui d'un récit, quelle voix pour vous dire tel ou tel personnage, bref, je vous fais pas un dessin. Au sommaire de cette semaine, de cette émission, un roman fort comme une claque. Majda en août de Samira Sedira vient de sortir à la collection La Brune des éditions Durouergue et mon Dieu, quelle force, quel roman qui pose tant et tant de questions. En préparant l'émission, figurez-vous, je me suis dit, oh, punaise, c'est casse-gueule, un texte pareil, un message pareil au milieu de ce maintenant-là. Et puis non, justement, c'est aussi en ce moment, je crois, qu'il nous faut reculer devant les peurs pour continuer de faire la guerre aux amalgames, aux peurs, justement, celles qui font de nous des monstres, et ce, de façon absolument universelle. Majda en août, c'est la cité, le destin d'une jeune vie brisée par la bêtise des hommes, c'est la vie d'une femme, mais aussi la force de l'amour et des parents. Et voici comment je me sentais en reformant ce roman court, mais à l'effet long et puissant.
Thank you.
Voilà, c'était Soap and Skin et sa puissance à elle aussi, sa force. Pour vous dire, Majda en août de Samira Sedira qui vient de sortir là dans cette rentrée littéraire qu'on dit de janvier chez Rouergue dans la très très bonne collection La Brune. Alors Samira Sedira, c'est pas une jeune débutante. Elle était rentrée dans le milieu littéraire de façon fracassante il y a 2 ans, quelque chose comme ça, avec un texte qui s'appelait L'odeur des planches, où elle écrivait son propre destin, sa propre vie, c'est-à-dire que après être née effectivement comme ça dans une famille issue de l'immigration maghrébine, elle avait accédé, et on sait que c'est assez rare. Au milieu des comédiens, et puis du jour au lendemain, alors que sa carrière allait bien, sans qu'elle soit devenue une star, mais sa carrière allait bien, elle avait du travail, etc., etc., dans ce milieu-là, à savoir parisien, le milieu du théâtre, le milieu qui se dit être une grande famille, ça c'est important quand même, bim, plus de travail pour Samira Sedira, plus de travail, donc obligée d'aller faire des ménages pour pouvoir subvenir à ses moyens, pour pouvoir survivre. Et donc là, après, c'est une espèce de spirale, j'imagine, qui commence. En tout cas, c'était comme ça que c'était dit dans le texte. On essaye d'avoir un travail au théâtre, on vous dit pourquoi vous faites des ménages, et quand on vous dit pourquoi vous faites du ménage, enfin bref, on s'en sort plus. Cette époque porte ça malheureusement très fort. Et donc, elle avait écrit ce texte de façon très politique, quand le mot politique voulait dire quelque chose. Ce second roman confirme que Samira Sedira est donc une comédienne, ça elle l'avait déjà prouvé, mais aussi une romancière. Je vais d'ailleurs la recevoir d'ici une poignée de secondes, avec beaucoup, beaucoup de fierté d'ailleurs, je tenais à vous le dire. Samira Sedira, avec Majda en août, nous offre un roman court. Quand on l'ouvre, on tombe sur une scène dont on a peu l'habitude, tellement elle fait partie de nos tabous occidentaux, il faut bien le dire. Des femmes dans un troquet qu'on imagine en province mais qu'on ne situe pas. Des femmes qu'on imagine alcooliques, tant elles ont l'habitude d'être dans ces postures-là et tant leurs propos sont décousus, sont tournent à vide. Donc on a ces deux femmes-là dont on ne sait rien, on voit à quel point elles sont abîmées, à quel point la vie les a abîmées, à quel point elles n'ont pas eu le choix et qu'elles ont laissé la vie les abîmer comme ça. Et puis Samira Sedira va nous donner l'autre côté, elle va éclairer un des deux personnages féminins d'une autre façon, c'est-à-dire qu'une vieille dame, Fouzia, reçoit un coup de téléphone provenant d'un hôpital psychiatrique, on lui demande de venir chercher sa fille. Sa fille, pas vue depuis 3 années. Et donc, avec son mari, Ahmed, ils vont aller chercher dans ce qui est pour eux l'équivalent de la planète Mars. C'est-à-dire que, culturellement probablement, mais aussi parce que, de façon universelle, ce sont des parents qui vont chercher leur enfant, leur Majda devenu adulte, dans un hôpital psychiatrique avec tout ce que ça comporte de douloureux. Et pour eux, peut-être un peu plus... Mais ça, c'est une question qui reste ouverte, incompréhensible. Ils vont la chercher et ils vont la prendre à la maison, c'est forcé. Et presque comme avec un nourrisson, en fait, alors que Majda est adulte, en fait, ils vont essayer de la reconstruire. Et On va remonter le fil de la vie de Majda, qui est l'aînée d'une fratrie où derrière elle, il n'y a que des garçons. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils vivent dans la cité, on reconnaît Marseille, mais c'est pas cité. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment sa vie a été brisée à un moment? Et donc, adulte, cette faille-là va ressortir d'une manière époustouflante, d'une manière fracassante, d'une manière violente. Voilà. Comment ce personnage de Majda, moi, je vous le dirai, en fait.
Calvin Klein, il me rappelle encore ses souvenirs lointains. Depuis ma femme est morte et je peux me saouler au vin de l'assassin. J'ai tué ma bien-aimée, implanté deux couteaux n'aurait pas suffi. Il m'a fallu voir grand pour lui ôter la vie. Si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas, mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas. Je ne regrette pas mon acte, je regrette mon état. Je pensais m'en remettre, mais en fait je ne peux pas. Un meurtre sur la conscience, ça ne s'oublie pas comme ça. Alors je tourne en rond avec mon brave Victor. On a pété les plombs, on tue les chiens dehors. Si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas. Mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas.
Voilà, c'était Mansfield Tia avec Pour oublier, je dors, pour vous dire la dimension morte de Majda. C'est-à-dire que sa vie a été brisée, et adulte, elle ne s'en sort pas. Et même au milieu de tout cet amour que lui donnent ses parents, comme ils peuvent, elle est comme ça auréolée dans tout le roman du pouvoir des destructeurs des médicaments, par exemple. Donc, il me semblait que ce titre convenait parfaitement. Voilà, il est grand temps pour moi de recevoir avec beaucoup de fierté Samira Sedira. Samira Sedira, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Majda en août est votre second roman. Il vient après L'odeur des planches, publié en 2014. Oui. Alors, comment est né... 2013, pardon.
Oui.
Comment est né ce roman-là, Majda en août? Le premier, j'ai envie de dire, était quasiment un acte politique avec un grand P, quand le mot politique revêtait encore un sens. Comment en est-il?
Oui,
qu'en est-il
oui, enfin, disons que le premier était plutôt de facture autobiographique. Mm-hmm. Voilà.
Oui, c'est ça.
Directement autobiographique, puisque il s'agissait de En fait, j'y racontais dans L'odeur des planches, donc ma chute, en fait. C'était vraiment une chute, un déclassement, puisque j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années au théâtre, et puis un jour, plus rien, plus de projet. J'avais bien sûr les acédiques, puis les acédiques se sont amenuisées. Mmh. Et puis je suis arrivée en fin de droit. Mmh. Et donc, il a fallu que je fasse quelque chose pour combler le trou de fin de mois. Et comme je ne savais que jouer, puisque c'était, j'ai été formée pour ça et je n'avais pas d'autre formation que celle-là, je me suis dit, ben, je vais aller à la... Au plus simple, je vais faire des ménages, et c'est ce que j'ai fait.
Oui.
Et donc dans ce roman, donc L'odeur des planches, je raconte donc ce parcours, et puis comment tout à coup cette nouvelle fonction m'a ramenée à mon histoire, l'histoire de mes parents.
Oui.
En fait, cet exil professionnel m'a ramené à l'exil de mes parents.
Tout à fait.
Voilà.
Et du coup, est-ce que pour Majda en août, vous aviez une pression particulière à sortir de cette dimension autobiographique, à confirmer une écriture?
Une pression, non, mais si vous voulez, ça a été un petit peu compliqué de se livrer. C'est vrai que c'est pas évident de se livrer. Quand on écrit, quand la première matière, c'est soi, mm-hmm. C'est compliqué, ça peut être un peu douloureux, puis j'en avais un petit peu marre de parler de moi. Mmh. Donc je me suis dit, j'avais vraiment envie de passer à la fiction. Et puis, oui, effectivement, j'avais envie de... Puisque c'est vrai que pour L'odeur des planches, ce qui intéressait les gens, les journalistes et puis les lecteurs, à part quelques personnes, c'était le témoignage.
Mmh, oui.
C'est vrai qu'il était important. Mais moi, vous avez raison, j'avais envie de confirmer aussi l'écriture. J'avais envie qu'on me dise... Bah, ouais, tu écris pas mal. Mm-hmm. J'avais envie de ça. J'avais envie de ça, oui. J'avais envie d'affirmer ma voix d'auteur, en
oui,
tout cas.
C'est ça. Ouais. Comment, ouais. Comment est-ce que vous vous racontez, comment vous présentez Majda en août? Comment vous racontez Majda en août?
Ah, en fait, c'est, moi, je dirais que c'est l'histoire d'une femme, enfin, d'un parcours chaotique d'une femme, plus que chaotique même. C'est l'histoire d'une femme qui n'a de femme au fond que le nom, puisqu'on l'a, dès l'enfance, totalement vidée de sa substance, mmh. dévitalisée, désincarnée. Majda n'est plus qu'une ombre, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mmh. Voilà, c'est une femme qui n'a pas réussi à l'être, mmh. ou en tout cas on ne lui a pas laisser la possibilité de le devenir.
Quand j'ai refermé votre roman, au-delà du drame qui va briser Majda, et dont on ne dira rien dans l'émission, je me suis dit qu'en somme, son drame archaïque, son drame premier, ça a été de naître fille dans cet endroit-là. Sachant que je pars du principe que, où que ce soit, naître fille est plus difficile.
Exactement. Oui, des Majda, il y en a dans le monde entier. Il suffit d'ouvrir les yeux, mmh. et d'ouvrir les portes des maisons, il y en a partout. C'est vrai, et que son drame, c'est de naître femme, et que son drame, c'est d'avoir une féminité, comme je dis dans le roman, trop explosive, oui. aux yeux de sa communauté en tout cas.
Alors, ce qu'il y a de très fort dans votre roman, c'est que vous n'avez pas cédé aux caricatures, et notamment, il y a ce personnage auquel moi, je me suis beaucoup, beaucoup attachée, c'est-à-dire le père, Ahmed.
Ah, on en parle souvent, oui.
Et qui est particulièrement... il a une ouverture d'esprit, il a une histoire particulière que vous vous donnez la peine de raconter. Il a, dans l'enfance, il a rencontré quelqu'un d'autre qui lui a apporté autre chose.
L'amour.
Oui, c'est ça.
Ouais,
et tout à la fois, dans le fait que Ahmed soit aussi ouvert d'esprit, c'est aussi peut-être ce qui va conduire Aziz, l'aîné des frères, à porter cette posture violente et barbare plus fort encore.
Oui. Oui, parce que c'est en fait un père détrôné.
C'est ça.
C'est un roi qui n'a plus de couronne.
C'est ça.
Et c'est exactement ça. Et puis il y a une place à prendre. Et c'est ce que fait Aziz. C'est le pouvoir qu'il a envie d'avoir.
Mais là, on se dit où est la solution en fait. Finalement, cette famille-là a la chance entre guillemets d'avoir un père qui est comme ça, qui apporte beaucoup d'amour et beaucoup de lumière parmi les siens. Et puis quelque part, c'est aussi à double tranchant en fait. Elle serait où la solution?
La solution, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle serait dans l'assouplissement des mentalités. Mais là, je pense qu'il faudrait ça prendrait ça prend des décennies avant que les choses puissent s'assouplir. Mais là, ce qui tue Majda, au fond, c'est le repli sur soi de cette communauté, c'est la pensée collective.
Oui, oui.
C'est, voilà, elle est asphyxiée par ça. Elle est asphyxiée par ça. La force de cette pensée collective est telle que même un père, qui est pourtant le représentant de la loi, n'y peut rien, ne peut rien faire.
C'est ça.
Oui, ne peut rien faire.
Diriez-vous, parce que tout de même, comme vous n'avez pas cédé à la caricature, même Aziz ne rentre pas dans la caricature.
Et, exactement.
Et je me suis demandé, après là, notamment la scène quasiment finale du repas de famille, si la vie d'Aziz était aussi brisée d'une certaine manière.
Ah, évidemment, elle l'est brisée pour tous.
Ouais.
Alors il y a beaucoup de pudeur à dire les choses, il y a comme une sorte c'est vrai, de faillite du langage, c'est ce que raconte le livre. Les choses ne se disent pas, l'amour ne se formule pas, les blessures ne se formulent pas, le drame ne se formule pas.
Oui, c'est ça, le silence est un personnage complet dans votre roman.
Exactement, ouais, exactement. Mm. Exactement, c'est ce qui fait au fond, pour moi ça représente quand même la mort de l'humanité, le silence.
Mais oui,
quand il y a faillite du langage, il y a mort de l'humanité, forcément, puisqu'on est des êtres de langage. C'est ce qui nous distingue quand même des autres espèces vivantes. Et si le langage n'existe pas, tout meurt autour.
Oui, c'est ça.
Et c'est ce qui arrive, je crois, au fond, à cette famille.
Alors,
tout est étouffé.
Oui. Mais vous avez laissé, vous avez c'est très fort hein, comment Fouzia et Ahmed vont essayer de remettre sur le chemin de la vie Majda, alors qu'ils sont face.
Elle aussi d'ailleurs.
Oui, elle se bagarre. Hein,
c'est vraiment une résistante Majda.
Elle essaie
vraiment par tous les moyens. Elle s'en va, elle fait des études supérieures.
Oui.
Même dans sa façon de s'habiller.
Bien
dans
sûr.
Sa façon, voilà, elle est très très apprêtée, elle est très sophistiquée.
Alors,
elle est vraiment pas dans le cliché de la.
Tout à fait, non, tout à fait.
Ouais.
Mais ça,
ouais.
vous avez tout de même voulu laisser. Enfin, moi, j'ai reconnu comme une sorte de cocon. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de l'appartement de Fouzia et Ahmed.
Oui. Durant ce mois d'août.
Oui, durant ce mois
oui.
d'août.
Et oui.
dans
oui.
quand vous même quand vous tirez le fil de l'histoire de la famille, vous avez peu évoqué l'environnement. C'est-à-dire que vous avez peu évoqué ce qu'on imagine être une banlieue, en fait.
Oui. Parce que ce qui m'intéressait, c'était le huis clos.
Ouais.
Et puis qui en lui-même est déjà une micro-société.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, je voyais, c'était pas utile d'évoquer le autour. Si, moi, je l'évoque à peine, mais par des voix, au fond, qui sont peut-être aussi les voix que Majda entend dans son esprit ou à longueur de temps, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette famille enfermée, et ce mois d'août, d'ailleurs, qui j'ai choisi le mois d'août parce que je me dis que le mois d'août, c'est un mois d'août éprouvant dans le sud de la France,
oui.
Et que, voilà, qui
on est tous écrasés.
Symbolise ouais, l'enfermement, on est écrasé par cette chaleur.
Oui, oui ouais. C'est ça.
Ça renforce la notion d'enfermement et de huis clos.
Tout à fait. Alors, on le comprendra, j'ai beaucoup, beaucoup aimé votre roman et je vous remercie pour ce grand moment de lecture. Ça a fait écho, par exemple, avec les romans de, pour moi en tout cas, et c'est peut-être un peu maladroit, mais avec les romans de Kauthar Archi, par exemple.
Que je connais de nom, mais je n'ai pas lu. Il faudrait que je lise.
Oui, vraiment. Est-ce que vous pensez que la voix des filles peut s'élever, Samira Sedira.
Alors, de quelles filles? Nous, les femmes en général? Nous, les filles en général?
Alors, je parle...
Nous, les filles issues de l'immigration?
Je parle des filles issues de l'immigration, oui.
Bon, ben, on est quelques-unes, mais on existe déjà. Mm. J'espère qu'elle s'élèvera encore plus fort, encore plus haut.
Samira,
c'est important.
Oui, tout à fait. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour Rock'n Page. Vous ne couperez pas à la question, Rock'n Page. Si vous deviez choisir un seul titre de musique pour évoquer votre roman sans en parler, vous choisiriez quel titre?
Ah, alors il me vient comme ça, une chanson de Janis Joplin, qui est Little Girl Blue.
Parfait. Et bien voilà votre réponse. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous. We'll be right back.
Voilà, alors dans l'ordre, c'était Samira Sedira au micro de Rock and Page. Merci, merci à elle d'avoir répondu à cette invitation. Et puis tout de suite après, c'était Fiona Apple avec ce titre qui date pas d'hier et qui s'appelle Criminal. Et oui, il est bien question de ça aussi dans Majda en août, des gens qui sont des criminels dans nos vies. Peut-être qu'à certains âges, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, ou peut-être que si. En tout cas, c'est des vies brisées, ça c'est sûr et certain. Voilà, je vous rappelle qu'on vient de parler de Majda en août, qui vient de paraître à la collection La Brune aux éditions du Rouergue. Ce roman très fort est signé Samira Sedira, qui donc a été comédienne toute une partie de sa vie, le sera peut-être encore, mais en tout cas compte définitivement parmi les auteurs de littérature contemporaine, et nous en sommes très très heureux. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Prenez bien soin de vous, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Rock and Page, et si l'envie vous prenait de réécouter les anciennes émissions, vous n'avez qu'à taper Rock and Page dans un moteur de recherche digne de ce nom. Y en a-t-il d'autres d'ailleurs? Enfin, avec des noms, bref, vous m'aurez compris. Je vous laisse avec un titre qui continue à dire comment parfois il est difficile d'être une femme sur ce putain de monde. Allez, à tout bientôt.
Southern trees bearing strange fruit, blood at the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the purple trees. Pastoral scene of the gallant south. Strange and bitter.